Bonjour à chacun et à chacune. Les rangs sont un peu clairsemés ce matin. C'est le premier départ en vacances. Mais le Seigneur, lui, n'est pas clairsemé. Il nous a déjà, je crois, bien visités ce matin. Et sans doute, à travers cette louange et ces temps d'adoration, des guérisons, des consolations ont déjà été reçues dans les cœurs. Avant de démarrer, vous avez peut-être vu le baptistère qui est installé là. Nous n'avons pas de baptême ce matin, mais il y a d'autres églises sur Rennes qui ont des baptêmes. Et là, c'est l'église Espérance des Nations que nous accueillons assez régulièrement, hein, puisqu'ils n'ont pas de lieu fixe pour l'instant, et qui donc cet après-midi auront un baptême. Je crois d'ailleurs, que, je ne sais pas s'il y en a un ou plusieurs, et parmi les baptêmes, il y a une cousine de Sandrine. Je ne sais pas si Sandrine est là ce matin. Donc voilà, le corps de Christ... fonctionne. Hier, nous accueillions à leur demande un jeune couple de l'église ACER qui s'est marié. Bon, vous savez, des fois, il voulait se marier ici, il trouvait que la salle était belle. Alors, on a réfléchi, on a accepté. La motivation n'était pas forcément hautement spirituelle, mais on a accepté. Puis finalement, on a été bénis. Je voulais remercier particulièrement Jean-Pierre qui a pris beaucoup de temps pour cette organisation. Mais je crois qu'on a eu des bénédictions. Entre autres, hier, il y a un jeune homme qui nous a dit « Ah oui, mais c'est dans votre église, il y a un frère qui vient visiter en prison, etc. » Et ce jeune homme, 25 ans, était sorti de prison. Il avait été touché par le témoignage de Jean-François et sa visite en prison. Voilà, je voulais vous partager ça parce que c'est la vie de l'Église, puis vous en entendrez peut-être parler. Ce matin, j'avais un thème, puis finalement j'en ai pris un autre sur la consolation de toutes nos afflictions. C'est le titre de mon message. Peut-être certains n'ont pas besoin d'être consolés, mais on vient d'entendre à travers le texte qu'a choisi Jean-François, qui viendra plutôt en conclusion, parce que je vais faire deux messages là-dessus. Bon, bah, il a anticipé, hein, ce n'est pas un problème. Hein. On sait que le vrai consolateur, c'est le Saint-Esprit, celui que Jésus a envoyé. Et par contre, je parlerai de séparation, de la tristesse qu'amènent les séparations de la mort. Et c'est vrai, c'est ce que Jésus a annoncé aussi. En effet, les épreuves et les occasions d'affliction ne manquent pas dans la vie des hommes sur cette terre. Ça, je ne vous apprends rien. Au sein même de l'Église de Jésus-Christ, beaucoup connaissent l'affliction. Parfois, cette affliction, je parle pour les enfants de Dieu, est renforcée par la culpabilité d'être affligé. C'est compliqué des fois. On est affligé, mais quand on connaît les lois de Dieu, on sait que l'affliction, c'est les conséquences aussi du péché. Je vais y revenir un petit peu. Et alors, du coup, on peut encore en plus être culpabilisé d'être affligé. Et pour peu qu'on cherche auprès de quelqu'un une consolation et qu'on reçoive une parole un peu dure, certes parfois tirée de la Bible, mais assenée avec... peut-être un manque de douceur, ça peut arriver, sûrement arriver, moi, vis-à-vis de certains. Eh bien, les affaires ne s'arrangent pas. Alors, je vous invite vraiment à méditer là-dessus, sur cette question de la consolation. C'est la volonté de Dieu que nous soyons consolés, à double titre. D'abord parce que il est venu, et à la croix, il a réglé ce problème. C'est aussi pour nous consoler, que nous soyons guéris, restaurés. Le terme qui est employé d'ailleurs pour la guérison, c'est atina, c'est-à-dire le médicament, le médecin qui intervient, qui console et qui guérit tous les aspects de notre vie. Il a pris nos souffrances, on nous est dit dans Ésaïe 53. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'il veut faire de son Église, c'est son instrument privilégié pour manifester le royaume au monde et... c'est dans le fond bien, il nous a été rappelé dimanche dernier, nous avons un ordre, soyez toujours joyeux. Donc tout ça paraît compliqué, que de tensions dans tout ça. Hein. Et si nous ne sommes pas véritablement consolés de nos afflictions, notre marche est alourdie. Donc je crois que ça mérite qu'on prenne un peu de temps. Alors j'interviendrai sur un premier message et puis un deuxième message, je pense, dans 15 jours sur ce sujet. Alors, les différentes sortes d'afflictions. Je rappelle quand même là, ce que dit la parole, je le dirai en conclusion, c'est la consolation de toutes nos afflictions. Et ça, là, il y a une promesse, un engagement de Dieu. Il veut nous guérir de toutes nos afflictions, de toutes sortes d'afflictions. Alors, j'ai regardé un peu. Il y a d'abord des circonstances et des afflictions que nous traversons, que tout homme traverse, croyant ou non croyant. Et ça, je crois qu'on va commencer par ça aujourd'hui, c'est les circonstances générales à tous les hommes. Ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être un événement économique, des événements économiques ou familiaux, des déplacements, quitter son pays, perdre son travail, des ruptures de tous ordres. Et nous travaillerons, je dirais, sur ce sujet en allant consulter un spécialiste des afflictions qui est Job. On puisera dans ce livre de Job. Et puis, nous verrons la prochaine fois, pour les croyants nés de nouveau, il y a des afflictions particulières, figurez-vous, des afflictions que l'homme, non, ne connaissant pas Dieu, ne connaît pas. Il en a assez comme ça. Mais pour les croyants, il y a d'autres afflictions. Ça peut être nos chutes ou les afflictions qui proviennent de décisions dans nos vies, de mauvaises décisions avec des conséquences. On peut penser à Jacob et avec son beau-père, avec son frère. Il a quand même des trucs qui lui ont amené bien des ennuis. Et puis, pour les croyants encore, là, il y a les manifestations de notre chair, de notre caractère encore non travaillé, de nos anciens réflexes pour gérer les afflictions. C'est, pour y résumer, mais j'y reviendrai la prochaine fois, dans ce cri de Paul, « Mais qui me délivrera de ce corps de mort qui n'est pas encore renouvelé dans l'intelligence ?» Et puis, ça, c'est... les causes d'affliction pour les croyants, les causes, je dirais, un peu négatives. Et puis, il y a des afflictions qui peuvent venir et qui sont liées précisément à notre témoignage et notre engagement pour Christ. Et celui-là, il doit nous réjouir. En tout cas, le Seigneur nous dit, nous prévient par la bouche de Pierre, vous connaîtrez, si vous êtes vraiment mes témoins, eh bien vous connaîtrez des afflictions toutes particulières. Hein, mais ne vous inquiétez pas. Donc, je crois que c'est important pour traverser tout cela et sortir vainqueur de bien poser les choses, de bien connaître ce qui nous attend en tant qu'homme, en tant qu'humain, traversant cette terre, et puis en tant que croyant et en tant que disciple de Jésus-Christ. Alors, avant d'entrer dans les circonstances générales à tous les hommes, je voudrais faire une remarque un peu préliminaire. La question de la souffrance, elle est liée, et je le pose tout de suite, elle est liée évidemment à la chute qui a créé de grands désordres dans les relations entre Dieu et ses créatures, mais aussi entre les créatures entre elles. La parole nous dit « nous gémissons et la création tout entière gémit ». La chute a touché l'humanité entière et toute la création. Il est important déjà de bien poser cela, de le reconnaître, de le poser comme un postulat. La parole nous le dit. Si on n'accepte pas cela déjà, la révolte peut gronder dans nos cœurs. Le sentiment d'injustice va nous submerger et la colère qui va avec. Et nous ne connaîtrons pas la consolation. Il faut vraiment poser cette chose-là. Je le pose avant, sinon mon propos... Peut déjà toucher et être incompris. Mais déjà face à cela, déjà face à ces circonstances que vont connaître tous les hommes, la bonté et la fidélité de Dieu se manifestent, tant à l'égard de sa création et à plus forte raison vis-à-vis de l'homme qu'il a établi sur cette création, pour la gérer et l'assujettir en vue des besoins de l'homme et non de ses désirs. Jésus lui-même nous le rappelle dans Matthieu 5, verset 44, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Il y a déjà tout un programme. « Afin que vous soyez des fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Que cela soit déjà reçu dans nos cœurs. Dieu est bon, ça nous le proclamons beaucoup. Mais quand nous voyons que dans le fond, il peut même bénir des gens qui ne connaissent pas Dieu, etc., ça peut gronder. Dieu, il est miséricordieux et compatissant et riche en bonté. Recevons cela ce matin déjà dans nos cœurs. Pour le juste et pour l'injuste, pour le bon et pour le méchant, pour l'homme intègre et l'homme qui est déjà dans ses mauvaises voies, nous savons pourquoi, parce qu'il ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il se repente et qu'il revienne à lui. Mais bon, reconnaissons aussi que des fois, ça provoque des afflictions chez nous. Hein? Alors, je vais entrer dans le sujet sur les circonstances et les afflictions que rencontrent tous les hommes, qu'ils soient croyants ou incroyants. Je le disais, c'est par exemple la perte d'un être cher et dans une moindre mesure d'autres pertes, des situations matérielles, professionnelles, relationnelles qui s'effondrent. La première chose, c'est d'accepter ce que nous avons bien du mal à faire, d'accepter ce qui nous arrive, le reconnaître. Il y a plusieurs étapes, et je vais vraiment développer ça ce matin, il y a plusieurs étapes lorsque des afflictions, des circonstances pénibles viennent toucher nos vies. La parole aborde ces choses à plusieurs reprises de manière directe, et en particulier, donc je vous le disais, dans le livre de Job, dans lequel nous allons puiser ce matin. Lorsque les malheurs s'abattent sur Job, dès les premiers chapitres, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la première réaction, c'est de la part de Job, qui parfois, moi, m'a presque découragé, je dis, je ne suis pas capable de ça. Dans Job 1, nous allons lire, Job au chapitre 1, Job accepte ce qui lui arrive. Et ce qui lui arrive, ce n'est pas mince. Vous connaissez l'histoire, je vous la rappelle courtement. En quelques heures, Job, grosso modo, perd tout. Il perd ses richesses, il perd ses enfants. En quelques heures. Les messagers de malheur arrivent les uns sur les autres et annoncent à Job, voilà, tu as tout perdu. Par les circonstances, il est arrivé un accident, il est arrivé ceci, il est arrivé cela. Et alors, Job, au milieu, recevant toutes ces nouvelles, au verset 20 du chapitre 1, voilà la réaction de Job. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, écoutez bien, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Le verset 22 ajoute, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. On chante. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit l'Éternel. Est-ce que devant une pluie de nouvelles comme ça, c'est notre première réaction? Moi non. On aimerait réagir et entendre l'Éternel déclarer cela. En tout cela, Robert, Maurice, Sylvana, ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Pourtant, Job, quelques versets plus tard, va avoir une autre réaction. Comme une onde de choc qui arrive avec retard, Job va crier sa souffrance et son incompréhension. Et je vous invite à lire dans Job 3, à partir du verset 3. Là, les choses ont changé. Job 3, verset 3, voilà ce que déclare Job. « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu, ce jour qu'il se change en ténèbres. Que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui. » Au verset 10, « Car elle n'a pas fermé le sein qui m'a conçu, ni dérobé la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant et je serai tranquille, je dormirai, je reposerai. » Puis au verset 20, « Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Que s'est-il passé ? Vous voyez, Job est un homme de la même nature que nous. Un temps, sa foi réelle dans le Dieu créateur lui a permis de dépasser le choc. Et puis là, son cœur se répand. Et je crois que je n'ai pas besoin de faire beaucoup de commentaires. Ceux qui ont vécu des deuils, des séparations de toutes sortes, des retournements de circonstances dans une vie professionnelle, un licenciement, l'obligation de quitter son pays. N'y a-t-il pas eu des moments comme ça? On pourrait dire alors, doctement, mais c'est grave, il maudit le jour. Enfin bref, il se révolte contre l'Éternel, oui, oui. Que cela nous amène à reconnaître notre fragilité. Car sinon, nous serons surpris au jour de la détresse. Je voudrais avancer pas à pas dans tout cela. Mais souvent, proclamant notre foi, nous proclamons tout va bien, je tiendrai, je proclame la victoire. Et puis elle n'est pas là tout à fait, finalement. Acceptons, reconnaissons où nous en sommes. La parole nous donne cette parole pour nous rappeler notre condition. Ça ne veut pas dire qu'on a oublié Dieu. Job n'a pas oublié Dieu. Il proclamera, je sais que mon Rédempteur est vivant et que je le verrai au dernier jour. Mais il passe bien par toutes ces tribulations. Dans le même livre de Job, il est rappelé, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Même si pendant un temps, écrasé par l'épreuve ou la souffrance, on vacille. Je citais ça dans le cadre de l'attitude de l'entourage lorsqu'il y a une épreuve. Romains 12, verset 15 nous dit d'abord, pleurez avec ceux qui pleurent. Les amis de Job arrivent et se tiennent d'abord en silence. On dit beaucoup de choses sur les amis de Job, c'est des amis importants. C'est vrai qu'ils ont parlé pas au bon moment, pas forcément de la bonne manière, même si ce qu'ils disaient était juste. Mais quand même, au début, il nous est dit qu'ils sont venus et pendant 8 jours, ils étaient à côté de leur ami sans rien dire. Parce que des fois, il n'y a rien à dire. Les amis de Job arrivent et se tiennent en silence auprès de lui avant de réagir à son désespoir, plus ou moins adroitement. Job va leur dire d'ailleurs, « Vous voyez mon angoisse et vous en avez horreur. » Est-ce que ça ne nous arrive pas non plus? Rencontrant un frère, une sœur, un homme, notre prochain, dans des choses invraisemblables qui leur arrivent, on aurait envie de fuir parce qu'on ne sait pas quoi faire. J'ai un témoignage lorsque... 18 mois après ma conversion, j'ai perdu mon emploi. Un licenciement, mais quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Je priais le Seigneur, je vivais des situations très difficiles sur le plan personnel et familial. Et je disais, Seigneur, aide-moi au moins à tenir dans mon boulot. Parce que j'avais eu des responsabilités autrefois où j'avais vu que dans la vie des hommes, souvent... Je dis des hommes en plus, particulièrement, parce que les femmes tiennent souvent le coup plus longtemps. Et dans la vie des hommes, une perte d'emploi amenait des fois une séparation au niveau du couple, puis la misère, et des hommes se retrouvent rapidement à la rue. C'est vraiment un constat que j'ai pu faire, étant dans une commission sociale, etc. Et je disais, Seigneur, mais garde-moi dans mon boulot, donne-moi les forces. Et paf, un licenciement qui tombe comme ça, sans crier gare, appris au téléphone. Et la réaction de ceux qui m'entouraient, même des fois des frères et sœurs chrétiens. « Ah, mon pauvre Robert, mais qu'est-ce que tu vas devenir ?» Et puis, plein de fois, mais là, d'un seul coup, « Qu'est-ce que tu vas devenir ?» Et au milieu de ça, j'allais chez ma sœur aînée, un peu, pas comme une deuxième mère, mais enfin, qui s'est beaucoup occupée de moi, qui vit de manière très modeste, et je lui raconte ce qui m'arrive. Et là, comme un cri du cœur, elle me dit « Oh, c'est formidable, Robert, tu vas pouvoir te reposer. Je crois que le Seigneur l'a utilisée. Elle avait compris, elle. Effectivement, pendant 6 mois, mon épuisement de vie professionnelle, comme je disais, ça me sortait par tous les pores de la peau. Vous voyez, l'entourage, des fois une parole, elle est croyante, mais elle ne connaît pas vraiment le Seigneur. Mais je crois que le Seigneur peut utiliser, vous voyez, une parole qui est juste, qui sonne juste. Elle avait vu la chose, elle. Elle avait dû me voir les temps avant, bien épuisée par la vie professionnelle, par toute une agitation. Celui qui souffrit a droit à la compassion, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Peut-être, reconnaissons, on a des fois des attitudes religieuses, ah ben il faut tenir le coup, on a le Seigneur. Ben oui, mais des fois c'est difficile. Il y a de terribles questions face à la souffrance. L'échange entre Job et ses amis, parfois important, c'est l'occasion pour Dieu de nous instruire. Job 5, versets 6 et 7 nous dit « Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. » L'homme, c'est la parole de Dieu, l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Nous rappeler cela, ça ne veut pas dire que nous devons nous complaire et tomber dans un fatalisme, ce n'est pas cela du tout. Mais reconnaître qu'elle est là. Si nous ne reconnaissons pas les choses simplement comme elles sont, comment recevrons-nous du Seigneur la consolation? Le questionnement sur « qu'ai-je bien pu faire pour que cela m'arrive ?» Cette question surgit dans la pensée de Job au milieu des terreurs de la nuit. L'homme, je vous invite à ce passage, c'est dans Job 4, versets 16, 17 à 19, là, il y a une terreur qui vient. Quand il y a le malheur, la nuit, c'est terrible aussi. Et l'homme, d'un seul coup, Job décrit cette scène où il y a comme une présence qui vient et qui lui amène cette question. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, les anges, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent la maison d'argile, qui tirent leur origine de la poussière, et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Au sein de la douleur, de la souffrance, cette question vient. Alors vous allez me dire, mais nous on sait que par le sang de Jésus-Christ, nous sommes pardonnés, purifiés. Pour autant, ces questions peuvent tourner quand même. Autre point, l'acceptation sans avoir tout compris est nécessaire pour recevoir une vraie consolation. Dans ce que je vous partage là, ça nous permet déjà de saisir un peu ce qui se passe. Mes frères et sœurs, face à la souffrance, face à certaines afflictions, à certaines circonstances, il y a un moment, il faut dire stop. Je renonce à tout comprendre, du moins maintenant. Ces pensées sont au-dessus de nos pensées et ces voix sont au-dessus de nos voix. Acceptons, et là je m'adresse à des croyants, notre état d'entre deux. Créature divine abîmée par la chute, mais par l'Évangile, éclairée sur notre véritable identité, qui n'est pas encore totalement manifestée, c'est notre condition de croyant, déjà dans le ciel, assis, mais en même temps cheminant sur cette terre. Je voudrais à ce sujet vous lire deux passages qui manifestent cette tension-là, dans le psaume 8, à partir du verset 4. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. » L'homme, de peu inférieur à Dieu, à qui toute la création est soumise. Et dans le psaume 39, versets 5 à 10, « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse, il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions, ne rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Ces deux passages, je trouve, résument la tension dans la vie du croyant, né de nouveau, et dans la vie duquel le voile a été déchiré. Puisque ce voile a été déchiré, il voit. Il sait à la fois qui il est et il sait sa fragilité. C'est aussi simple que cela, et c'est toute la différence. Parce que pendant ce temps-là, l'incrédule, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Il est donc angoissé par la pensée de la mort et cherche à s'y soustraire de toutes sortes de manières. Pour nous, dans les deuils ou séparations de toutes sortes dans cette vie, nous connaissons la tristesse liée à ces séparations, à ces pertes, mais avons accès à cette espérance qui repose sur la connaissance de la vérité, la vie éternelle, pourvu que nous attachions à connaître intimement celui qui est la vie éternelle, savoir Jésus-Christ, l'empreinte de Dieu invisible qui seul peut nous donner à connaître le Père. C'est là cette différence. Mais ce que je voudrais vous partager, c'est que, croyants ou non-croyants, nous passons par ces étapes. Simplement, à un moment, le Seigneur nous replace face à la vérité de l'Évangile. Alors, il reste néanmoins, et je commence un petit peu sur ce thème-là, il reste une tristesse spécifique aux croyants éclairés. Le sort de celui ou de celle qui est parti. Est-il, est-elle sauvée? Je sais que tout croyant est travaillé par cela. Et ça, c'est notre défi. Là, il y a quelque chose de profond qu'on n'aime pas bien aborder, mais je vais le faire ce matin. Reconnaissons que dans bien des cas, nous ne savons pas ce qu'il en est. Et nous n'osons peut-être pas l'avouer. Je vais rapporter quelques éléments pour nous situer. Une première solution, c'est de fuir cette question. En tant que chrétiens, nous témoignons de notre foi et nous annonçons le salut en Jésus-Christ en reconnaissant que c'est là le plus important. Et devant une telle question, nous vacillons parfois. Alors, vous pouvez être tenté par cette attitude d'évacuer la question et ne pas l'affronter. Seulement, notre consolation ne sera pas complète. Il nous faut affronter cette question-là. Nous avons tous, y croyons, donc on proclame et on se réjouit parce que je crois que nous avons une communauté qui, sans stratégie particulière, a à cœur d'annoncer l'Évangile. On le voit dans les réunions de prière le mardi soir. Souvent, il y a des témoignages et nous prions pour cela. Dans mon travail, dans telle situation, dans telle rencontre, j'ai pu témoigner de Jésus-Christ, annoncer l'Évangile, annoncer le conseil de Dieu. Et à côté de cela, nous avons nos proches, nos familles. Et lorsqu'il y a des pertes, cette question vient. Est-il sauvé? Alors parfois, Dieu met dans nos cœurs une intime conviction. C'est vrai que beaucoup seront sauvés comme à travers du feu. Mais nous sommes surtout invités à nous replacer devant la parole de Dieu. Il veut, certes, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité et à la repentance. Et en même temps, dans son omniscience, il sait ceux qui répondront lorsqu'il leur parlera, car il parle deux ou trois fois ou plus dans la vie d'un homme. L'autre élément, c'est que lui seul connaît les cœurs. La parole nous dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, Dieu seul connaît le cœur de l'homme. » Deutéronome 29, verset 29, nous rappelle, donc je vais vous relire ça, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Cette question peut nous, j'allais dire presque nous hanter parfois. Et ça a vraiment à voir, ça c'est une véritable affliction dont nous avons besoin d'être consolés, nous avons besoin d'être au clair. Et ça passe à un moment par vraiment remettre cela à Dieu. Là aussi, je voudrais vous donner un témoignage. Il y a quelques années, je crois que c'était en 2012, dans mon parcours, je cherchais une maison à acheter. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, je n'aurais pas pu l'acheter à cette époque-là. Enfin, un peu comme ça, de temps en temps. Et à cette occasion-là, j'avais rencontré un dimanche après-midi un homme qui vendait sa maison. Et j'avais surtout passé l'après-midi avec lui. C'était un homme qui était dans un profond désespoir. Il était pris dans des liens financiers, des choses, et c'était comme une gueuse, vraiment, une pierre qui l'attirait au fond, quoi. Vous savez, vous trouvez embringué dans des systèmes d'endettement, de machin, et il ne s'en sortait plus. Il avait vécu un divorce, et il était dans un truc pas possible. Je viens pour discuter de la maison, et nous voilà, nous avons passé l'après-midi ensemble. Et dans les jours qui ont suivi, il avait été touché par la parole. Ça, je le sais. Et un jour, il me dit quand même une question. Il me dit, mais si quelqu'un suicide, qu'en est-il? Et là, une question comme ça, elle n'est pas anodine, évidemment. Et j'ai répondu, j'ai dit, c'est Dieu qui sait. J'ai rappelé la parole que nous n'avons pas. Notre vie ne nous appartient pas, c'est Dieu qui nous la donne. Mais devant un homme dans un tel désespoir, vous ne pouvez pas sonner des choses comme ça. Je dis, c'est Dieu qui connaît vraiment les cœurs. Quelques jours après, il y avait l'anniversaire d'un frère à l'église et il est venu à cette soirée. Je l'avais accueilli à la maison 2-3 soirs parce que vraiment il avait une angoisse terrible. Et puis vraiment, il y a des choses qui sont passées dans son cœur, j'en suis certain. Et puis 2-3 jours après, j'ai essayé de le contacter par moyen. J'ai finalement appris par sa sœur qu'il avait mis fin à ses jours. Et je peux vous dire que c'était terrible, quoi. C'était, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, et j'ai tout repassé, quoi. Et ben, vous savez, là, vraiment, nous sommes allés aux obsèques et je sais, c'est Jean-François qui m'avait accompagné. Il avait dû voir que c'était pas très facile. Et ça m'a vraiment touché. J'ai quelque chose dans mon cœur. Parce que Dieu sauve à travers du feu. Mais ça ne m'appartient pas. Et vous voyez bien que cette chose-là, c'est quelque chose qui peut nous écraser. Mais pourquoi je parle de cela? Dans nos épreuves et la consolation. Parce que, frères et sœurs, ça nous ramène à un abandon. Nous avons eu un temps d'adoration ce matin. Je crois que ça en fait partie sur la souveraineté de Dieu qui connaît le fond du fond des cœurs, les méandres des vies. Et Dieu reste juste et bon jusqu'au bout. Il est fidèle et bon. Et ça nous amène à nous humilier. À nous humilier. Nous connaissons des choses. Nous avons reçu les arts de l'esprit, nous avons une attestation dans nos cœurs. Et ça nous amène à rendre grâce à Dieu. Nous avons l'attestation dans nos cœurs du salut. Et rien ne pourra l'ôter. Ni les puissances, ni les dominations, rien. Mais pour ce qui est de l'autre, pour des frères et sœurs en Christ, nous savons. Mais nous sommes appelés, pour ce que notre part, puisque nous savons, à persévérer jusqu'au bout, à travailler à notre salut. Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé, ça nous a été rappelé ce matin. Mais pour les autres, il nous a rappelé une chose. Il ne nous appartient pas de juger. Et déchargeons-nous de cela. Déchargeons-nous de cela. Ce n'est pas nous à nous de juger. Mais simplement nous, puisque nous avons reçu la vie, transmettons la vie. Pour le reste, ce n'est pas à nous de juger. Et à travers ces paroles ce matin, je pense que plusieurs reçoivent une consolation. Ce n'est ni à nous de juger, ni à nous de nous charger au-delà. Au-delà. De ce qui est nécessaire. Dieu est souverain. Et il est juste. Il est juste. Remettons-nous à la justice de Dieu. N'essayons pas de tout comprendre. La justice de Dieu, elle est dans des temps qui nous dépassent aussi. Elle est dans des temps. Il est aussi le Dieu de l'histoire. Il est le Dieu qui connaît toutes les iniquités des peuples, des nations. Il est le Dieu qui connaît les conséquences, les malédictions sous lesquelles les uns et les autres ont pu être, se situer, se situe peut-être encore, mais il est celui qui, à la croix, a condamné l'acte dont les ordonnances nous condamnaient encore. Alors, j'aurais envie de dire, pas de manière égoïste, mais occupons-nous de nous, et pour le reste, acceptons d'abandonner au Seigneur, perdons le contrôle là-dessus. Je crois vraiment que ce sujet ce matin, celui-là, concerne plusieurs personnes. Nous devons simplement réaliser, c'est vrai, notre privilège, et réalisant ce privilège, avoir envie de communiquer ce que nous avons reçu. Ce privilège de recevoir la consolation et d'être renouvelé dans notre zèle pour les perdus. Nous sommes au cœur des questions de l'homme sur cette terre. Les hommes et les femmes qui ne connaissent pas la vérité de la vie éternelle refusent la réalité de la séparation lors d'un deuil. Et sont conduits soit au nihilisme, il n'y a rien après. Alors la parole nous dit, s'il n'y a rien après, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Soit vont chercher à communiquer avec leurs décédés, avec leurs défunts. Il n'est qu'à voir la ferveur humaine après des accidents, des catastrophes ou attentats, toutes ces fleurs pour les innocents, et finalement toutes les religions qui sont largement organisées autour d'un culte aux morts. Face à cela, la parole nous reprend vigoureusement. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts ou ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu ? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants, à la loi et au témoignage ? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Il y a là un avertissement solennel, mais en même temps, comme un diagnostic sur ce qui peut se passer dans nos vies. Je rappelle que c'est une des clés aussi de la parole de Dieu. Elle nous décrit des fois des situations pour nous donner les racines. Pas pour nous condamner, mais pour dire, Seigneur, je vois un certain nombre de choses, on voit un certain nombre de choses dans la vie de personnes, des choses qui se reproduisent, des choses qui touchent des fois des nations, etc. La parole nous dit, cette question du culte aux morts, Dieu a voulu la séparation de la mort et de la vie. Il ne nous est pas donné d'avoir du contact avec les morts. Alors vous allez peut-être dire, il dit des évidences. Oui, peut-être. Mais qu'en est-il des fois de traditions que l'on conserve, tout en disant qu'on est donné à Dieu ? Il y a là, frères et sœurs, quelque chose d'important. Je vous invite à considérer, à relire. Le Seigneur nous dit, ne faites pas cela. Ne faites pas cela. J'ai abordé donc ce matin, vous voyez, des choses qui concernent tous les hommes, un certain nombre de lois spirituelles sur ces séparations, etc. La prochaine fois, nous verrons les épreuves spécifiques aux chrétiens. Mais nous sommes appelés à recevoir une pleine consolation pour toutes ces choses. C'est la promesse de Dieu pour ses enfants. Condition qu'on reconnaisse déjà ce qui est, de se rappeler la source pour accepter pleinement que Jésus-Christ à la croix a pris nos souffrances et qu'il guérit les cœurs brisés qui se reconnaissent tels. Je voudrais pour terminer lire ce passage dans 2 Corinthiens 1, verset 3. Nous pouvons alors dire « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » qui nous console dans toutes nos afflictions. Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Je voudrais vraiment que les uns et les autres ce matin soient encouragés. Seigneur est celui qui réouvre des fois des blessures pour les traiter de manière correcte. Si je vous ai apporté ça ce matin, c'est parce que, à travers aussi les échanges avec les uns et les autres, on voit qu'il y a des choses des fois qui durent dans les vies, qui durent, parce qu'elles ne sont pas reconnues, parce que c'est trop dur peut-être des fois de revenir, de revoir. Mais si c'est amené vraiment au pied de la croix, là où Jésus-Christ a porté toutes ces choses, alors on recevra vraiment la consolation, une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. Et on pourra avancer, libérer, alléger. Alors simplement, ce matin, je vais inviter l'équipe de louanges à reprendre peut-être quelques chants. On a eu vraiment des chants. Je me disais ce matin, en écoutant louanges, il y a déjà des consolations qui sont reçues dans les cœurs. Mais si ce matin, quelques-uns, plusieurs veulent venir, peut-être se reconnaissent dans des situations qui sont encore lourdes. Eh bien, je vous invite simplement à vous approcher, puis on va prier. Faites maintenant ou juste après, mais venez. Et je crois que ces chants vont vraiment nous accompagner. Nous accompagner, parce que à l'ombre des ailes du Seigneur est vraiment la guérison et la consolation. À l'ombre de ses ailes. On ne comprend pas tout, mais on vient à lui. Et simplement, on reconnaît ce qui est, aujourd'hui là. Et il s'en occupe. Véritablement, il s'en occupe. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, tu as promis de nous consoler dans toutes nos afflictions, pourvu que nous venions à toi, les reconnaissant. Elles sont encore là. Seigneur, je te prie que ce matin, à travers ce qui a été partagé, plusieurs aient été éclairés, peut-être libérés. Ça puisse aider mes frères et sœurs à reconnaître qu'il y a encore cela là, qui les tourmente, qui les accuse peut-être. Peut-être même une affliction qui les accuse. Parce qu'ils se disent, je ne suis pas encore assez juste, assez bien, assez avec le Seigneur. Ce n'est pas ainsi que tu vois les choses, Seigneur. Je te prie vraiment ce matin d'accueillir ceux qui veulent faire un pas, Seigneur. Et de venir les visiter, parce qu'ils viennent se placer par ce geste à l'ombre de tes ailes, sous ce plumage doux. Tu es un Dieu rempli de douceur, qui sait parler de manière juste au cœur, mieux qu'un homme. Viens au milieu de nous ce matin, Seigneur. Amen. Amen. J'invite ceux qui veulent à s'approcher, simplement, puis nous prendrons un temps pour prier et vous bénir.